cela, je vais vous inviter à prendre un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 25. Qui a entendu parler de la parabole du bon samaritain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Est-ce que vous connaissez l'expression « c'est le bon samaritain » ? Vous l'avez déjà entendu quelque part ? Cette expression est tirée de la Bible, auquel en fait on va lire maintenant. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va. » Et toi, fais de même. Amen. J'aimerais qu'on voyage un petit peu, qu'on place un peu les choses, le décor, le cadre dans tout ça. Et pour introduire d'abord, avant de rentrer dans la parabole, de d'abord un petit peu focaliser le projecteur sur l'entretien. Un docteur de la loi arrive et demande à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus, il arrive, il ne répond pas directement, ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, il répond par une question. Et le docteur de la loi ne se pose pas de questions, mais du coup répond à la question posée à Jésus-Christ. Et dans tout cela, on voit dans la réponse du docteur de la loi qu'il est trop fort. Parce que par exemple, si moi je vous pose la question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois faire ? Respecter les commandements, parce que nous sommes juifs. Mais si moi je vous pose la question aujourd'hui, quels sont ces commandements ? Je pense qu'on arriverait et on citerait au moins 1 des 10 commandements. Parce que lorsqu'on parle des commandements, le plus souvent, facilement, on penserait les 10 commandements. Tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère. Mais lui, le docteur de la loi, il est trop fort. Il arrive, il prend toute la Torah et il prend les 2 meilleurs. Celui qui est dans Deutéronome, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Et ensuite, celui qui se trouve dans le Lévitique, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il prend le mix de tout ça et il arrive à donner la bonne réponse à Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on doit comparer aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est une personne, docteur de la loi, moi je dirais, le gars, il a un doctorat en théologie. Il a de l'expérience, il a la connaissance, il sait les choses. Et sait donner la bonne réponse. Et pourtant, il arrive à poser cette question à Jésus-Christ et dit, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et lorsque Jésus lui pose la question, qui lis-tu ? Il trouve la bonne réponse. Alors, il arrive et dit, mais qui est mon prochain ? Et ça, c'est la partie de, je connais les choses, mais maintenant, c'est l'application. Mais je ne comprends pas, c'est qui mon prochain ? Et Jésus le met en situation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette situation, et on peut s'identifier aux quatre personnes, ou aux cinq personnes qui se trouvent dans cette parabole. Et on voit, donc, première personne, c'est la personne qui descend donc de Jérusalem à Jéricho. Il n'est pas dit qu'il est juif, mais très probablement, il est juif. Il était juif. Parce que pour descendre de Jérusalem, enfin en tout cas pour sortir de Jérusalem, quelque part, on pense qu'il était juif. Et il met en place donc un premier personnage, donc le sacrificateur. Verset 31. Un sacrificateur qui, par hasard, passait par là, le vit. Et la Bible nous raconte qu'en fait, cet homme était l'homme qui s'est fait attaquer par les brigands, était laissé à demi-mort. Et le sacrificateur qui passe le voit, ne cherche même pas à comprendre s'il est mort ou demi-mort ou blessé. Il le voit, il passe outre. Le Lévite fait de même. Il voit un homme à terre, constate, ne veut pas s'approcher et passe outre. C'est-à-dire, Jésus met en scène en fait un sacrificateur et un lévite, c'est-à-dire des gens qui étaient consacrés dans le service de Dieu, dans le temple, dans l'enseignement. Et c'est des gens qui connaissaient la loi, et pourtant, quand il s'agit justement, on va dire, du premier commandement et du deuxième commandement, c'était un peu plus compliqué parce que eux, c'était plutôt, parce que dans la loi juive, c'était « si je touche un cadavre, je suis impur ». Et pour eux, la chose la plus importante, c'était de me dire « mince, je ne veux pas me retrouver impur. Moi, je sais les choses et donc je préfère vraiment rester focalisé dans ce que je sais, la connaissance. Moi, je suis consacré, je suis sacrificateur, donc je passe mon temps à sacrifier. Je suis un lévite, je suis dédié au temple et au service pour Dieu. Donc, les cadavres, je ne veux pas prendre de risques. » Et parfois, peut-être, on peut se retrouver dans ces choses-là. On peut avoir beaucoup de connaissances. On peut avoir marché avec Dieu. On peut même avoir fait une école de théologie. On peut même avoir un doctorat en théologie, comme le docteur de la loi. Et quand il s'agit justement des choses les plus humaines, quand il s'agit justement de pratiquer l'amour, c'est là où c'est compliqué. Et lorsque l'on voit ce Samaritain qui passe. Et pour l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, les Juifs et les Samaritains, si je dois retranscrire, c'est un peu comme OM-PSG. C'est deux équipes qui ne s'aiment vraiment pas du tout. Et quand il y a PSG qui vient jouer à Marseille, c'est un peu compliqué. Et vice-versa. Les Juifs et les Samaritains étaient deux peuples qui ne s'aimaient pas. Et pourtant, ils avaient la même racine, la Torah. Et le docteur de la loi qui avait répondu à Jésus, il a sorti deux passages de la Torah, du Lévitique et du Deutéronome. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force et toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Samaritain, on ne sait pas s'il était très instruit dans la loi, mais ce qu'on peut savoir, c'est que le Samaritain, il voyait un homme, il ne s'est pas posé la question de dire si c'est un juif, et que même si c'est un juif, c'est un homme qui a besoin d'aide. Il n'a pas regardé à la différence, il n'a pas regardé à ce qui pouvait être limitant. Parce que moi, je n'aime pas, parce que du coup, je suis samaritain, et puis j'ai un juif en face de moi, et finalement, je ne vais pas parce qu'en fait, on est deux peuples ennemis, et bien tant mieux pour lui. Il a ce qu'il mérite, parce que c'est un juif, et moi, je suis un samaritain. Ça veut dire que moi, j'ai raison et lui, il a tort. On est deux peuples ennemis. Et puis, qui suis-je, moi, pour l'aider parce que je suis un samaritain? Non. Il voit un homme blessé. Il ne regarde pas qui c'est. Il ne regarde même pas ses limites. Il ne regarde pas les choses. Et parfois, lorsqu'on est face à ces situations comme ça, des fois, on se pose des limites nous-mêmes auxquelles on se dit, un peu comme le sacrificateur, Et le Lévite, on se pose nous-mêmes des limites pour ne pas faire les choses que Dieu a demandées. Et Jésus nous appelle en fait à aller hors de zone de confort, hors de notre zone de confort. Est-ce que d'ailleurs, vous avez constaté un petit peu, moi ça m'a un peu surpris dans mes débuts, les deux commandements les plus importants, c'est quoi ? Aimer. C'est bizarre que Dieu demande d'aimer. D'habitude, quand on parle d'amour, quand on nous présente l'amour, on présente « Ah oui, ah je l'aime. Ah oui, il est fantastique, elle est fantastique. Ah ouais, je l'aime. Ah ouais, je l'apprécie trop bien, on a trop d'atomes crochus. C'est fantastique. Ah ouais, on aime le sport ensemble, on aime tout. Ah ouais, je l'aime bien. Ah ouais. » Et là, c'est l'amour, on va dire, par affinité, point commun, atomes crochus. Mais alors, pourquoi parler du coup d'amour comme un commandement ? Pourquoi Dieu nous demande d'aimer ? C'est pas quelque chose de naturel, aimer ? Quand je dis je t'aime, quand je dis je t'aime. Est-ce que vous, quand on réfléchit à toutes les situations, toutes les personnes que l'on rencontre quotidiennement, on dit moi je l'aime ? Et ça, c'est dur, ça. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, en face de nous, ils sont un peu compliqués. Il faut des fois beaucoup, beaucoup d'amour, manifesté par beaucoup de patience. Et c'est difficile. Mais il faut l'aimer. Et plutôt la tendance, ce serait plutôt de ne pas l'aimer. Et Jésus vient avec cet enseignement pour bouleverser un petit peu. Il vient un peu bouleverser les choses, la mentalité, les mœurs, les traditions, la mauvaise compréhension, la compréhension qui arrangerait le peuple, le monde. Moi, j'aime qui je veux. Mais Jésus, il arrive et dit, si on te maudit, tu bénis. Si on te frappe la joue gauche, tu tends la joue droite. Ou vice-versa. Bénis celui qui te maudit. Et il arrive avec un concept tout à fait différent. Et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas les hommes religieux de l'époque. Et là, c'est encore pire. C'est un docteur de la loi qui vient lui demander pour le mettre à l'épreuve. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et Jésus de lui répondre, qui l'y tue ? Et le docteur de la loi de répondre, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force et ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a une expression qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, aujourd'hui, avec l'histoire, le temps et la langue évoluent un petit peu. Quelquefois, les termes perdent un petit peu de leur force et de leur profondeur. Et ce terme, c'est ému de compassion. Vous savez, ému de compassion, c'est un peu une émotion. On va voir un film triste et puis on va avoir la petite larme. Et les films sont très forts par rapport à ça parce que du coup, ils mettent la musique qui font pleurer. Ou alors la musique qui entraîne. Mais là, parlons de ému de compassion. Et là, parfois, il se passe quelque chose et puis on le raconte anecdotiquement parlant et puis on est là, oh, d'accord, oui, je te comprends, oui, je suis avec toi. Et parfois, c'est juste, ouais, je suis avec toi. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait. Ouais. Ému de compassion. Et littéralement, si je dois traduire, si je dois retranscrire en fait exactement ce qui se dit, ému de compassion, c'est remuer dans les entrailles. C'est-à-dire du plus profond de nous, quelque chose qui vient de l'intérieur, encore plus profond que ça, qui fait que du coup, on a vraiment mal. On est avec toi. Et ému de compassion, les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en fait, ne l'attribuent qu'à Jésus. Majoritairement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, voyant la foule, fut ému de compassion. Deux aveugles viennent solliciter Jésus-Christ. Jésus fut ému de compassion. Sinon, si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est dans les paraboles de Jésus-Christ. Dans le Fils prodigue, c'est le Père. Et ému de compassion est vraiment là. Dieu est un Dieu d'amour. Et de son ciel de gloire, il nous voit, nous les hommes, nous se perdre. Et ému de compassion. Il agit. Jésus a pris le temps à chaque fois de s'arrêter. Alors qu'il était sollicité pour aller guérir pour aller guérir la fille de Jaïrus. Une femme qui était atteinte d'une maladie de 12 ans, la perte de sang, était venue entre son départ et le point d'arrivée, et il a pris le temps de s'arrêter pour elle. À chaque fois que la foule le sollicitait, il a pris le temps pour les bénir, pour les guérir. Et même les enfants, alors que les disciples étaient là, il a dit, mais non, mais ils vont te déranger. Non, non, laissez venir à moi les enfants. Cet amour de Dieu vient transformer tous les concepts que l'on peut avoir sur le confort. Non, mais c'est le maître. Il faut vraiment que ce soient des gens spéciaux qui viennent et qui s'approchent de lui. Mais Jésus était venu pour des hommes perdus, pour des hommes pécheurs. Il était venu pour un péager, pour Matthieu, un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Encore aujourd'hui, ce n'est pas super populaire, collecteur d'impôts. Que Dieu les bénisse. Il était là, il a pris chacun en considération. Il y a cet exemple vivant où il ne regarde pas aux règles, où les règles pour lui, ce n'était pas un prétexte. Mais lui, le motif profond, c'était les gens. C'était le salut des gens. Il ne voyait pas au péché, il ne voyait pas à l'impureté, il ne voyait pas tout cela. Il voyait au salut, il voyait au cœur. Tout à l'heure, je l'ai dit, Dieu est amour. Ok, mais c'est que des paroles. Mais alors, comment s'est manifesté l'amour de Dieu ? Philippiens 2 nous le dit. Philippiens 2, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui est Dieu, lui qui est tout-puissant, lui qui n'a même pas de compte à nous rendre, est descendu de son ciel de gloire à, je vais dire, baisser ses capacités divines, a pris la forme d'un homme, d'un simple serviteur. Et vous qui lisez la Bible, vous qui êtes des lecteurs de la Bible, si vous remarquez un petit peu le comportement un peu de serviteur de Jésus-Christ qui a lavé les pieds et qui a été au service du peuple par amour. Il n'a pas dit, moi je suis Dieu et puis je vous regarde, vous le peuple. Non, il a dit, ce peuple est en train de se perdre. Ce peuple se perd, il nous faut un plan. Alors, je vais prendre la forme d'un homme pour porter ce message, premièrement. Pour montrer aussi qu'il y a bien au-delà de la souffrance que vous pouvez vivre encore aujourd'hui. Prodiges, miracles, guérisons, délivrances, toutes vos souffrances, je les ai portées, je suis là pour vous. Mais bien au-delà des prodiges et des miracles, je donne ma vie pour vous à la croix. Pourquoi ? Vous ne comprenez pas ? Parce qu'à un moment donné, le sang, les sacrifices que vous pouvez faire ne sont pas suffisants. Il faut le sacrifice parfait. Vous ne comprenez pas la justice de Dieu ? Il faut que je meure pour que vous viviez. Il faut que mon sang soit versé pour que je sois racheté. Pour que vous soyez racheté, pardon. Comprenez cela. C'est par amour pour vous. C'est par amour pour vous. Romains 5:8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 1 Jean 4, 9 à 11. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et c'était le nouveau commandement de Jésus-Christ. Il n'a pas dit, il a repris le commandement, le deuxième commandement qui suivait le premier commandement, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et a dit, voici un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pendant ces 3 ans de ministère terrestre, où je l'ai démontré en vous acceptant tel que vous êtes, en ne vous jugeant pas sur ce que vous avez fait de bien ou de mal, ou de ce que vous ayez peut-être trahi la religion juive en étant collecteur d'impôts, en travaillant pour les Romains, ou alors en étant des gens de mauvaise vie, en étant des pécheurs, en vous éloignant même par vous-même des choses de Dieu. Non, mon amour pour moi, ce n'est pas arrêté à ce que vous avez fait de bien ou de mal. Il ne s'est jamais arrêté. Croyez-le que je vous aime. Je suis mort sur la croix. Il est mort sur la croix, Jésus-Christ, pour vous, pour nous donner la vie. Et prenez cet exemple et vous faites de même. Parfois, je pense que c'est dur parce que ému de compassion a été rapporté qu'à Jésus-Christ. Et tout à l'heure, je l'ai dit, l'amour, ça nous est présenté des fois comme naturel, mais des fois, ça, c'est pas naturel en fait. Et je pense qu'on doit apprendre à aimer. Apprendre à aimer le copain, la copine, le frère, la sœur, peut-être un peu des fois pénible. Apprendre à aimer le collègue de travail ou la collègue de travail, le patron. Et ça s'apprend. Et quelque part, si ça peut vous rassurer, les disciples sont passés dans cette école. Et si vous vous souvenez un petit peu de tout ce qui se dit dans les évangiles, vous savez, c'était un peu la course les uns contre les autres. Oui, permets que mon fils, quand tu seras dans ton ciel de gloire, il y en a un à ta gauche et un à ta droite. Ouais, quand bien même les autres te renieraient, moi jamais je te renierai. Toutes ces paroles que les disciples pouvaient dire à Jésus pour faire un petit peu le faillot, pour montrer qu'ils étaient extrêmement spirituels, pour montrer qu'ils avaient vraiment compris le message de Jésus-Christ, l'enseignement du Sauveur, du Messie. Oui, je l'ai compris. Tu es Christ, le Messie. Ok, ça c'est une bonne révélation. Ensuite, quand Jésus lui révèle que du coup il doit mourir sur la croix, qu'il doit souffrir, oh, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. Mauvaise réponse. Tout ça parce qu'en fait on cherche à plaire, mais des fois c'est juste maladroit. Et aimer, ce que j'ai constaté le plus souvent, vous savez, quand on aime Dieu, Dieu nous met dans une zone de non-confort. Il nous met hors de notre zone de confort. Et nous, on a souvent tendance à vouloir rester dans notre zone de confort. Vous savez, moi, ma zone de confort, c'est le vidéoprojecteur. J'aime beaucoup. Mais Dieu nous appelle à aller au-delà de notre zone de confort. Et lui, il a quitté sa zone de confort, son ciel de gloire, pour prendre la forme d'un simple serviteur. Il nous a montré l'exemple et le chemin. Quand il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et quand on dit qu'on croit en Jésus-Christ, je crois aussi fortement qu'il faut suivre cet exemple qu'il a donné. Et parfois, je ne suis pas là pour culpabiliser, parce que les disciples n'ont pas forcément fait mieux. Et ça, je pense que c'est une progression que l'on doit tous faire. Et on n'est pas là pour se dire, « Oh, je manque d'amour. Je suis donc incapable, je suis un serviteur inutile. » Non. La parole de Dieu, elle est là pour nous pointer des fois du doigt des points à travailler, des choses qui peut-être a fait lacune un peu chez nous, qui nous a fait peut-être défaut. C'est comme un peu ce père de famille qui présente son enfant qui est démoniaque. Et il demande à Jésus de chasser les démons. Et il dit à Jésus, il dit, mais tes disciples n'y arrivent pas. Et toi, tu peux le faire. Et Jésus pointe du doigt quelque chose. Et il dit, ouais, mais tu es incrédule là. Et lui de reconnaître, tu as raison. Viens au secours de mon incrédulité. Et parfois, les choses qui nous font défaut des fois, Dieu nous invite à les remettre au trône de sa grâce. C'est lui qui nous rend capables des choses. C'est lui qui nous donne les compétences. Mais nous, on doit venir tel que nous sommes en disant, Seigneur, voilà, je manque peut-être d'amour, mais je veux aimer comme toi tu as aimé. Je manque de compassion, je veux en avoir comme toi tu en as eu pour tous ces gens. Je ne veux pas avoir sur les a priori, sur l'image que je peux me faire de mon prochain, de la personne qui est là. Non, je veux voir comme toi tu vois. Je veux que mes yeux s'ouvrent comme toi tu as vu, comme toi tu nous as vu, tu ne nous as pas regardé à nos péchés, tu n'as pas regardé à nos mérites. Tu as regardé aux besoins qu'on avait, au fait qu'on soit malade, malade du péché, qu'on était destiné à la mort éternelle. Alors tu as agi. Pour arriver à la fin de cette parabole, justement, ce docteur de la loi, quelque part, j'ai remarqué, j'ai pas eu l'impression qu'il s'est vexé. Parce que quand Jésus lui dit, il lui dit, Luc 10, quand il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi, facilement, il aurait pu s'identifier comme sacrificateur et comme lévite, c'est-à-dire celui qui est passé outre le blessé. Il aurait pu être outré. Il aurait pu être offusqué. Parce que du coup, Jésus, quand il a choisi ces trois personnes, donc le sacrificateur, le lévite et le samaritain, il a pas choisi au hasard. Il a pris vraiment des personnes bien identifiées. Et le docteur de la loi aurait vraiment pu s'identifier au sacrificateur et au lévite. Et s'offusquer, dire, mais non, enfin. Mais il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Conclusion, Luc 10 au verset 37. Jésus lui répond, va, et toi, fais de même. Dieu est un Dieu d'amour et il l'a démontré. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Il demande d'aimer notre prochain. Et 1 Jean 3, 18, pour finir. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et ce soir, c'est une réunion de prière. Et peut-être quelque part, les limites que l'on s'est posées, c'est j'ai peut-être honte d'élever ma voix. Peut-être que on arrive et les a priori sont là et dit ben, c'est toujours les mêmes qui prient et puis j'ai pas ma place dans le temps de prière. Peut-être que demain, quand je vais me lever, mon collègue, mon ami, il est dans une situation, lui témoigner de Dieu, ça sert à rien. Peut-être de dire je suis pas assez parfait pour témoigner, je suis pas assez équipé. On peut toujours se trouver des excuses. Mais Dieu nous invite à ne pas regarder aux excuses. Dieu nous invite à regarder à lui, à Jésus-Christ, et à voir la mission qu'il a accomplie et qu'il nous confie aussi dans la continuité des choses. À ne pas considérer le fait que peut-être j'ai honte ou je suis timide, ou peut-être de faire des bourdes, ou peut-être d'être maladroit. Celui qui est à côté de toi, celui qui est ton prochain, c'est celui qui a besoin de toi, c'est celui qui a besoin de prière, c'est celui qui a besoin, comme les amis du paralytique, que tu l'emmènes au pied du trône de la grâce de Jésus-Christ. Alors vraiment, que ce soir, on puisse prendre le temps de considérer les choses, de dire, Seigneur, c'est vrai, peut-être, je manque d'amour, je manque de compassion pour mon prochain. Alors Seigneur, aide-moi, comble mes lacunes, fais ce que je ne sais pas faire. Peut-être que je ne sais pas prier. Seigneur, comble mes lacunes. Je veux prier parce qu'il y a un combat, parce que je veux amener ces gens dans l'intercession, au trône de ta grâce, afin qu'il se passe des choses. Parce que moi, je te connais, je connais l'amour que tu me portes. Je sais ce que tu as fait dans ma vie, mais je ne veux pas être égoïste. Je veux le partager. Mais ma timidité ou les a priori que je peux avoir m'en empêchent. Seigneur, je veux porter ce message qui est là parce que je veux être avec cette personne, tout le monde dans le ciel. Ce message important. Même si j'ai peut-être 5, 10, 15, 20 ans de conversion, je veux le faire. Je veux sortir de ma zone de confort et prendre ma place en tant qu'enfant de Dieu et dire que ma prière, elle compte. Parce que Jésus n'est pas venu prendre les plus spirituels parmi les 12 disciples qu'il avait avec lui. Si vous regardez son équipe, ce n'est pas une super équipe. Hein. Je n'aurais pas parié dessus. Mais ça veut dire qu'il considère chacune de nos prières, chaque chose que l'on peut faire, ça compte. Une prière de 3 mots, comme une prière d'une phrase en prose ou en alexandrin. Vraiment, prenons le temps. Prenons le temps ce soir, c'est un temps de prière pour amener toutes ces choses au pied du trône de la grâce. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment progresser, nous voulons vraiment grandir, nous voulons vraiment aller au-delà de ce que, Seigneur mon Dieu, nous pensons que nous sommes arrivés. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, dépasser les limites parce que tu nous appelles à plus. Seigneur Jésus, tu es venu de ton ciel de gloire pour donner ta vie. Tu as dépassé, Seigneur mon Dieu, ta zone de confort par amour pour nous. Seigneur Jésus, je manque d'amour, je manque de compassion. Pardonne-moi, je veux pouvoir en avoir plus pour voir le salut. Seigneur mon Dieu, personne ne mérite la mort éternelle. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment œuvrer pour toi. Nous ne voulons pas être limités par les choses qui pourraient nous limiter. Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment aller au-delà de ces choses. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, donne-nous à aimer comme toi tu aimes. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, à voir comme toi tu vois, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment progresser, Seigneur Jésus, parce que tu nous demandes de le faire, de t'aimer premièrement, mais aussi d'aimer notre prochain comme toi-même, et aussi de nous aimer les uns les autres, Seigneur mon Dieu. Viens nous aider, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons faire ton œuvre. Tu nous appelles à cela, à avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi, Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci. Merci de travailler avec nous. Merci de vouloir te servir de nous. Merci de vouloir collaborer avec nous. Nous te rendons gloire et te disons merci de tout notre cœur. Béni sois-tu éternellement, Dieu. Amen.